Vous êtes bien sur Europe 1, il est midi.
Première étude officielle chiffrait à 1,4 million le nombre d'habitants en France exposés à un risque de submersion marine. Il y a une espèce de sous-estimation.
Emmanuel Macron ouvre en ce moment même un conseil de défense écologique. Il prévoit de relocaliser entre 5 000 et 50 000 logements menacés par l'érosion du littoral. Le président se rendra ensuite au Mont-Blanc. Mathieu, nous verrons quelles autres mesures il envisage.
En Corse, le vent faiblit, ce qui va permettre aux pompiers de déployer des moyens aériens pour lutter contre les incendies.
Dans ce journal également, retirer de l'argent aux distributeurs pourrait bien nous coûter plus cher.
Tout comme nos complémentaires santé qui nous coûtent également plus cher.
Le niveau d'inflation globale sur le marché de la complémentaire santé est très élevé cette année, 5%. On en arrive à un surcoût qui est supérieur dans un cas sur deux à 80 euros.
Nous reviendrons également sur ce scandale révélé par Europe 1 dans une cantine scolaire parisienne.
Ce qu'on se dit, c'est que si on a trouvé une fois, de façon inopinée, des preuves de tentative de tromperie, c'est que ça doit être une pratique assez courante.
Nous irons aussi aux États-Unis où Bernie Sanders a remporté la primaire démocrate dans le New Hampshire.
Le football, suite des quarts de finale de la Coupe de France, c'est ce soir.
Et puis comme chaque mercredi, les sorties cinéma à la fin de ce journal. La météo, Anissa Haddadi.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui s'annonce dans l'ensemble comme la journée la plus agréable de la semaine, va falloir en profiter. Sur le nord de la Seine, des averses et du vent. Cet après-midi, partout ailleurs, c'est un temps sec et ensoleillé. Je vous donne tous les détails du temps près de chez vous à la fin du journal.
Merci Anissa, on vous retrouve à midi et demi, météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron veut faire de l'écologie l'un des points importants de la deuxième moitié de son mandat. Il va donc consacrer, Mathieu, les deux jours qui viennent à la question du changement climatique.
Oui, le chef de l'État qui vient d'ailleurs d'ouvrir un conseil de défense écologique à l'Élysée avant de se rendre ce soir en Haute-Savoie. Il sera demain au Mont-Blanc, juste à côté de la mer de glace, le plus grand glacier français. On va y revenir. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Alors d'abord, ce conseil de défense écologique, qu'est-ce qui va y être décidé, Virginie?
Alors ce sont essentiellement des annonces d'une écologie du quotidien. Pas de mesures choc, mais par exemple, un plan pour enclencher la transition écologique dans les services de l'État. Une liste de 20 mesures écologiques obligatoires pour l'État qui doivent concerner 2 400 000 agents qui pourront, par exemple, s'ils viennent travailler à vélo ou en covoiturage, bénéficier d'un forfait mobilité de 200 euros par an. Interdiction d'acheter des chaudières au fioul pour les bâtiments publics ou d'engager de grosses réparations sur les appareils existants. À l'Élysée, le président veut aussi montrer l'exemple. Il y a déjà des scooters électriques à disposition pour les collaborateurs. Plus de bio dans les repas servis. Une gourde pour chacun au lieu des 600 bouteilles d'eau en plastique jetées chaque jour. Et le gouvernement annonce une extension des aires protégés qui passe de 20 à 30% du territoire.
Alors Virginie, on apprenait également ce matin une série de mesures pour protéger entre 5 000 et 50 000 logements qui seraient en péril le long de notre littoral.
Oui, alors ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire la frontière terre-mer recule chaque année de 50 cm à 1,50 m par endroit, par exemple en Vendée ou dans la Somme. La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne veut donner aux élus des outils pour identifier les zones qui seront menacées dans les 30 ans qui viennent par les vagues submersion ou les inondations. Et c'est donc effectivement 5 000 à 50 000 habitations qui sont menacées selon l'estimation du ministère. Des gens qui vont devoir être relogés dans un secteur protégé avec un accompagnement financier, assure la ministre. Mais la tâche est immense. L'association France Nature Environnement Vendée souligne qu'il n'y a pas seulement des habitants sur le littoral. Yves Le Quellec.
Sur nos littoraux, il y a aussi 160 établissements de santé, il y a des écoles, des centres de secours, il y a des voies de communication, des voies routières et des voies ferrées, des zones industrielles, des choses comme ça, qui sont également très exposées. Donc il va falloir se donner les moyens de traiter l'ensemble du problème. Mais du coup, je crois que c'est quand même assez sous-estimé.
Voilà, Yves Le Quellec, président de France Nature Environnement Vendée.
Et c'était les explications de Virginie Salmen, spécialiste des questions d'environnement à Europe 1.
Alors, on le disait, hein, Mathieu, ce quatrième conseil de défense écologique ouvre une séquence politique importante pour Emmanuel Macron, alors que partout en France, les listes vertes sont plébiscitées dans les sondages en vue des municipales.
Et nous sommes en ligne avec Lola Valéjeau. Vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça vous paraît suffisant, un conseil de défense écologique comme celui-ci?
En soi, le conseil de défense écologique, il envoie un signal et les sujets qui ont été retenus sont des sujets intéressants et majeurs. Sauf que, évidemment, ce qui va faire autorité, ce qu'il va falloir surveiller, c'est dans quelle mesure ces annonces sont suivies des faits. Typiquement, la question des services publics éco-responsables, c'est bien, c'est un pas important. Néanmoins, le vrai levier d'action du gouvernement, c'est bel et bien de donner des feuilles de route à tous les ministères pour mettre en place notamment les objectifs climatiques et atteindre la neutralité carbone en 2050.
Vous parlez de levier, justement. Est-ce que annoncer, comme l'a fait ce matin Elisabeth Borne, qu'on va faire en sorte de relocaliser les logements menacés, c'est un effet d'annonce, justement, ou est-ce qu'on peut réellement déplacer les gens? Ce sont des choses qui avaient déjà été dites, après Xynthia notamment.
Oui, effectivement, il y a déjà des solutions qui ont été mises en place ou des nouveaux moyens qui ont été donné aux intercommunalités, notamment pour agir et se saisir des risques liés aux littoraux. Néanmoins, on voit qu'il n'y a pas assez de moyens techniques et financiers donnés à ces acteurs locaux pour permettre la mise en œuvre de ces actions.
C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il faudrait ?
Il faudrait de plus en plus de soutien financier pour permettre notamment de déplacer et de racheter les terrains concernés. Il faudrait aussi investir dans des actions de dialogue avec les parties prenantes locales, parce que c'est des projets qui sont extrêmement sensibles sur le plan politique. Et pour l'instant, on voit que, après Xynthia, on a des territoires qui ont été identifiés comme prioritaires, mais pourtant, on n'a pas vraiment une saisie au niveau local de ces différents risques, faute de moyens.
Et on parle aussi du Mont-Blanc, où Emmanuel Macron va se rendre. Le Mont-Blanc, on le sait, qu'il est dans une situation critique. Il n'y a pas vraiment de mesures annoncées contre ces gaz à effet de serre, ce réchauffement climatique. Quand on parle de gourdes à l'Élysée, est-ce que c'est suffisant?
Comme je le disais, je pense que le levier majeur, ça va être vraiment de clarifier qu'est-ce que ça veut dire agir pour le climat, pour le ministère de l'Agriculture, des Transports. Pour l'instant, le pilotage, il est plutôt au ministère de la Transition écologique. Alors que pour que cette ambition elle devienne vraiment concrète, il faut que chaque ministère comprenne dans quelle mesure l'objectif climatique va changer la façon dont il planifie ou dont il remplit ses missions. Et pour le moment, on n'est pas du tout au niveau d'appropriation requis. Je pense que le Conseil de défense écologique, il est justement là pour ça, pour dire l'Élysée porte ce sujet au plus haut niveau. Voilà, maintenant, il reste encore beaucoup à faire pour que ce soit reflété dans les plans d'action des ministères. Et encore une fois, la question du suivi, elle va être majeure. Une autre annonce dont vous n'avez pas beaucoup parlé, mais c'était la question du développement des aires protégées. Voilà, on parle notamment du Mont-Blanc.
C'est prévu dans son discours à Chamonix.
Oui, et ça, c'est une question où, encore une fois, le diable va être dans les détails, parce que la France a déjà près de 26% d'air protégé au sens des conventions internationales. Et le Conseil de défense écologique va proposer de passer ce seuil à 30%, ce qui est une demande souvent des organisations environnementales aussi au niveau international. Néanmoins, il va falloir être très vigilant sur la qualité de ces aires protégées, parce qu'en fait, il y a plusieurs dénominations, plusieurs nomenclatures. Et selon le type d'air protégé concret, on pose plus ou moins de contraintes et de limites au développement. Soit c'est, par exemple, un
ça dépend
un
si
parc
c'est une réserve
naturelle,
un parc naturel. Exactement. Ou un parc naturel régional. Ça change évidemment beaucoup de choses.
Merci Lola Vagère. On suivra ça dans Europe Midi. Vous étiez directrice, et vous êtes toujours d'ailleurs directrice du programme climat de l'IDRI. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce midi sur Europe 1.
En Corse, les rafales de vent diminuent, ce qui devrait permettre de mieux s'attaquer aux incendies qui sévissent, Mathieu, toujours sur l'île de Beauté.
Oui, des milliers d'hectares sont partis en fumée depuis plusieurs jours, sans faire de victimes, mais les soldats du feu ne pouvaient pas faire grand-chose en raison du vent. Jeanne Bergaoui, ça y est, 4 canadaires et 2 hélicoptères bombardiers d'eau viennent d'entrer en action.
Absolument, ils survolent la zone depuis un peu plus d'une heure maintenant. La priorité, c'est de larguer de l'eau sur certains points stratégiques. C'est ce qui doit empêcher la propagation de ces incendies. Dans un second temps, quand la situation sera un peu plus sous contrôle, des sapeurs-pompiers seront déposés par hélicoptère sur ces zones inaccessibles par la route. En parallèle, au sol, plus de 300 hommes et 80 véhicules sont en ce moment déployés. Alors, 3000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée, mais le confinement de deux villages vient d'être levé à Togne et à Sarry-Solenzar. Les habitants peuvent désormais rejoindre leur maison. Un soulagement pour Jackie qui travaille à la pharmacie de Sarry-Solenzar.
Les fumées, ils y sont toujours, hein? Ça peut sentir selon où on se trouve, parce que bon, il y a beaucoup d'arbres. D'après ce qu'on voit, même quand on roule sur la nationale, le feu s'était scindé en deux. Et donc, c'est vrai que ça fait une longue lignée de fumée. Les routes ne sont pas accessibles. On ne peut pas, bien sûr, monter pour voir. Mais on a vu les pompiers ce matin et ils nous disaient que c'était en bonne voie. Et on a les Canadairs qui sont arrivés, donc on les entend passer au-dessus, donc pour essayer d'éteindre le plus possible, pour pas que ça couve dessous, quoi.
Un monastère habité par des sœurs est lui toujours évacué. Il se trouve entre ces deux villages, de Togne et Sarisolenzar. S'il n'y a plus de menace directe, l'accès à ces villages reste tout de même réglementé pour permettre aux secours de travailler. Et la préfecture de Corse du Sud rappelle d'ailleurs plusieurs mesures de prudence. Ne circulez pas sur les routes bordant les incendies et puis surtout, évitez de sortir. Fermez vos volets, fenêtres et bouches d'aération.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1.
Il est midi 10. Suite de votre journal avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Retirer de l'argent liquide, Mathieu, aux distributeurs pourrait bientôt nous coûter plus cher.
Eh oui, puisque l'autorité de la concurrence a donné son feu vert au groupement des cartes bancaires. Concrètement, il faut savoir que chaque banque prélève une commission lorsque vous retirez de l'argent liquide dans un distributeur. En général, c'est votre propre banque qui la paie. Cette commission, elle était de 57 centimes, elle va passer à 89. Olivier Samin, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui allons payer la différence?
Alors, pas nécessairement. En tout cas, si vous êtes client d'une banque classique, une banque qui s'appuie sur un réseau d'agences et qui possède des distributeurs automatiques de billets. Ces banques-là, aujourd'hui, ne vous facturent rien quand vous retirez de l'argent dans leur distributeur. Elles ne vous facturent rien non plus quand vous retirez de l'argent dans le distributeur d'une autre banque, sauf à la rigueur, si vous le faites plus de 5 ou 6 fois par mois. Pour rester concurrentiel, elles absorbent le coût que ça représente, un coût qui est quand même évalué à 2 milliards d'euros par an, si l'on en croit la Banque de France. Et ce coût, les banques en ligne, qu'elles s'appellent Boursorama, ING ou Orange Bank, n'ont pas à le supporter puisqu'elles n'ont pas de distributeur.
Donc vous êtes en train de nous dire que ce sont les clients de ces banques en ligne qui risquent a priori de supporter la hausse de la commission sur les retraits de billets.
Alors personne pour l'instant ne nous confirme cette hypothèse, mais si on se place sur le terrain de la pure logique, le scénario pourrait être celui-là puisque les clients de ces banques en ligne jouent en quelque sorte les passagers clandestins quand ils vont retirer de l'argent dans les distributeurs des banques classiques. Il ne serait pas étonnant que les banques classiques leur demandent de payer, ou plutôt le demandent à leur banque en ligne, libre à elles de répercuter ou non ce coût sur leurs clients.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le nombre de voitures d'occasion vendues en France a fortement augmenté l'an dernier. Sur les 8 millions de voitures écoulées, 5 800 000 étaient des occasions. Les particuliers regardent donc le prix comme premier critère d'achat.
Les tarifs des complémentaires santé, Mathieu, flambent selon l'UFC Que Choisir. Des hausses de prix jusqu'à, écoutez bien, 12%.
Eh oui, l'association de consommateurs qui a analysé près de 500 contrats et qui constate donc cette hausse pratiquement généralisée avec des écarts de prix très marqués. Écoutez Mathieu Esco de l'UFC Que Choisir.
Le niveau d'inflation globale sur le marché de la complémentaire santé est très élevé cette année, 5%, parfois beaucoup plus. On en arrive à un surcoût sur l'année qui est supérieur dans un cas sur deux à 80 euros et qui dépasse même pour une personne sur 5 les 150 euros. Et par ailleurs avec de très grandes disparités entre les principaux organismes complémentaires. Nous avons certains qui ressortent à moins de 3%, quand d'autres dépassent les 10%, jusqu'à 12% d'augmentation, pour Swiss Life par exemple. Donc on est vraiment sur des augmentations très significatives, et qui évidemment se traduisent par des renoncements, soit à se soigner, soit parfois à s'assurer, ou alors des personnes qui vont être obligées de troquer leur bonne complémentaire santé contre un contrat d'entrée de gamme qui leur remboursera beaucoup moins bien, mais qui sera moins cher.
Mathieu Esco de l'UFC Que Choisir, Jean pour Europe 1 par Maud Descamps.
Alors que répondent les mutuelles? Eh bien, Albert Lottmann était sur Europe 1. Il est le directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française.
Je reste persuadé que cette étude de l'UFC Que Choisir a tendance à exagérer la tendance à la hausse sur les complémentaires santé, les tarifs des complémentaires, des mutuelles, parce que la méthode choisie n'est pas exhaustive. La réalité, c'est qu'il n'y a pas, en 2020, d'impact significatif de la réforme du reste à charge sur les lunettes et les dents dans les tarifs des mutuelles ou des complémentaires santé.
En 2020, qu'on soit bien d'accord, Albert Lottmann, du coup, vous partez sur quelle base d'augmentation, si ce n'est pas 5?
Les tarifs en 2020 ont augmenté de 2 à 3%.
Albert Lottmann, directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française. Il était l'invité de Mathieu Béliard dans la matinale d'Europe 1. Nissan réclame 83 millions d'euros à Carlos Ghosn. Le constructeur japonais accuse son ancien PDG de faute et activité frauduleuse. Carlos Ghosn qui lui-même poursuit le constructeur automobile pour rupture abusive de son contrat.
Midi 16, votre journal continue avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Que sert-on vraiment à nos enfants le midi dans les cantines? La question se pose, Mathieu, suite aux révélations ce matin d'Europe 1.
Ah oui, avec des pratiques pour le moins douteuses, notamment dans certaines cantines parisiennes. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Concrètement, certains parents d'élèves ont découvert que le menu affiché vaut d'origine française, alors qu'il s'agissait en fait de veau allemand.
Oui, le cahier des charges indique très clairement que la viande doit être 100% française, mais en fouillant dans les poubelles de la cantine centrale, des parents d'élèves ont retrouvé un emballage de viande allemande. Cette viande n'a finalement pas été servie aux enfants, mais les parents ont malgré tout décidé de porter plainte pour tentative de tromperie contre la Sogeres, le prestataire engagé par la mairie du 18e arrondissement. Selon nos informations, ils sont déjà une vingtaine à avoir porté plainte et plus de 60 autres devraient leur emboîter le pas dans les prochains jours. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une première. Depuis des années, les parents alertent la mairie. Cette viande allemande, c'est la goutte d'eau pour Marie, parent d'élève.
On les a alertés sur la nécessité de renforcer les contrôles. Ils ont fait appel à un cabinet de conseil qui était censé contrôler le prestataire, qui n'effectue qu'un contrôle par mois dans les cuisines centrales. Comment ça peut être suffisant? La preuve, on fait un contrôle inopiné des poubelles et on montre qu'il y a tromperie. Et la municipalité semble tomber des nues et demande des comptes à son prestataire. Ils ne peuvent pas découvrir le problème aujourd'hui, ça fait des années qu'on leur explique que c'est le cas.
De son côté, la Sogeres assure qu'il s'agit d'une erreur humaine totalement exceptionnelle. Cette affaire vient en tout cas s'ajouter à d'autres scandales dans des cantines scolaires. Comme l'année dernière, en Ile-de-France, on a retrouvé des vis et du métal dans des purées servies à des enfants en crèche. Des scandales à répétition car les contrôles qui sont à la charge des mairies sont trop souvent aléatoires. Pour les parents qui souhaitent vérifier ce que mangent leurs enfants, un premier conseil, lire les menus ne suffit clairement pas. Et puis pour juger sur pièce, vous pouvez déjeuner à la cantine de vos enfants, c'est un droit. Il faut s'en saisir.
Enquête de Victor Dolande du service Société d'Europe 1.
On prend maintenant la direction des États-Unis, Mathieu, où le futur candidat démocrate à la Maison-Blanche semble se dessiner.
Eh oui, les primaires se poursuivent. Deuxième scrutin hier dans le New Hampshire avec Xavier Yvon, Bernie Sanders qui prend très nettement l'avantage.
Oui, il a 78 ans, il a eu une attaque cardiaque en pleine campagne, il se définit comme un socialiste au pays du capitalisme et pourtant... Bernie, ses supporters exultaient cette nuit avec cette victoire dans le New Hampshire. Bernie Sanders est aujourd'hui le mieux placé pour remporter l'investiture démocrate et donc défier Donald Trump en novembre. Arrivé juste derrière, Pete Buttigieg a félicité le sénateur du Vermont.
I admired Senator Sanders when I was a high school student.
Le jeune maire, ouvertement homosexuel, inconnu il y a un an, a fait un score excellent et il conforte sa place d'alternative centriste. Il sera peut-être celui derrière qui tout l'establishment démocrate se ralliera pour contrer Bernie le gauchiste, à moins que ce ne soit Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, qui crée la surprise en troisième position. En revanche, il y a de moins en moins de chances que le champion des modérés s'appelle Joe Biden. L'ex-vice-président finit piteusement cinquième. Il n'a même pas attendu les résultats pour filer en Caroline du Sud, où il compte sur le vote des Afro-Américains pour sauver sa candidature.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Le pape ne retient pas l'idée de prêtres mariés. L'idée était pourtant évoquée pour remédier en Amazonie à une pénurie de prêtres dans certaines régions. On ira justement en Italie à 13h pour comprendre la décision du Vatican.
D'un mot, le coronavirus poursuit son expansion et un bilan qui s'alourdit de jour en jour. Plus de 1100 morts, principalement en Chine, mais un nombre de nouvelles contaminations qui, lui, baisse.
Europe 1, il est midi 20.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. On parle foot avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France. Et puis, c'est mercredi, c'est jour de cinéma. A tout de suite.
Retour de votre journal avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France de foot après la victoire de Rennes hier soir.
3-0 face au petit poussé Belfort ce soir, deux matchs au programme. Dijon PSG à 18h30, puis Lyon-Marseille à 21h05, c'est précis. Simon Rubin, on commence donc par Dijon PSG. Il faut bien dire, hein, Dijon peut y croire parce que ce sont les derniers à avoir battu Paris en championnat.
C'était le 1er novembre dernier, effectivement, à Dijon, 2-1. Avec le recul, hein, Tourelle, l'entraîneur du PSG, estime que c'était vraiment dans l'intention, sur le plan mental, que son équipe avait failli. Et Dijon, en plus d'avoir battu Paris, est très solide à domicile, seulement 2 défaites depuis le début de saison. Et pour donner encore un peu d'espoir aux Bourguignons, on rappellera enfin qu'ils font partie des équipes ayant marqué le plus de points contre des membres du top 5 de Ligue 1. Avalanche de chiffres, de statistiques, d'accord. Bon, le problème, évidemment, c'est que cette fois, Paris voudra absolument gagner. À 6 jours de la Ligue des Champions, le PSG monte en puissance et même sans Neymar, les Parisiens sont larges favoris.
Bon, concernant Lyon-Marseille maintenant, qui ne nous met pas d'accord avec Mathieu, qui est favori?
Alors d'abord, merci avec cette question de me mettre en difficulté.
Je vous en prie.
On va réfléchir ensemble. D'un côté, on a Lyon, en crise, qui n'avance pas malgré son changement d'entraîneur. Rudy Garcia semble d'ailleurs aux prises avec les mêmes difficultés que lorsqu'il entraînait l'OM, hein, l'an passé. Un discours qui ne passe pas, des essais, des changements changements qui ne prennent pas. Et puis en face, Marseille, que personne n'espérait à ce niveau, dont les performances reposent en bonne partie sur la forme de Mandanda, le gardien, et de Payet à l'avant. Une équipe qui n'a pas encaissé le moindre but en Ligue 1 en 2020, mais Marseille qui n'a plus gagné à Lyon depuis plus de 12 ans. Pour résumer, le poids de l'histoire penche pour Lyon, la forme du moment pour l'OM.
Vous en sortez bien, Simon Rubin.
On verra demain, Mathieu.
Des services des sports d'Europe 1, Dijon PSG, donc 18h30, Lyon-Marseille. 21h05.
Allez, comme tous les mercredis, on va au cinéma et on commence par la sortie aujourd'hui du nouveau film de Michel Hazanavicius avec notamment au casting Omar Sy. Ça s'appelle Le Prince oublié.
Film familial dans lequel Omar Sy élève seule sa fille de 8 ans, Sophia. Chaque soir pour l'endormir, il lui raconte une histoire dans laquelle elle est une princesse en danger et lui, le prince, qui vient la sauver. Cette histoire prend vie à l'écran dans un univers imaginaire jusqu'au jour où Sophia grandit et son prince n'est plus son papa mais un jeune garçon de son collège.
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse !
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Comment ça, pas d'histoire ?
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules mes histoires maintenant, tu comprends ?
Et voilà cet extrait de la bande-annonce du film Le Prince oublié, signé Michel Hazanavicius, pardon. Film plutôt critiqué par la presse ce matin.
Bon, Mathieu, habituellement le mercredi, vous nous faites vos recommandations cinéma. Dites-nous le film à voir cette semaine.
Eh bien, je vous conseillerais Un divan à Tunis, dans lequel Golshifteh Farahani joue une psychanalyste qui quitte le confort de son cabinet parisien pour s'installer à Tunis au lendemain de la Révolution, dans un pays fait de secrets, de faux-semblants, et où certains confondent l'image de Freud avec celle d'un frère musulman. Son installation, évidemment, va être houleuse. Un film lumineux sur l'importance de la parole. Ça s'appelle donc Un divan à Tunis. Et puis d'un mot, je vous signale que plusieurs associations féministes appellent ce matin dans Le Parisien au boycott de Roman Polanski et de son film J'accuse lors de la prochaine soirée des Césars le 28 février.
Il me manque mes étoiles.
Allez, on va mettre 3 étoiles à Un divan à Tunis et 1,5 au Prince oublié.
Bon.
Sur 5. Hein.
Merci Mathieu. Vous revenez à 13h. Nouveau journal sur Europe 1.
Il est midi 25.
Europe 1.